des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Mesdames et messieurs, de retour, Pat Laprade, Kevin Raphaël, pour la troisième édition des Antipodes Extra, yeah. Où on est complètement ailleurs que dans nos émissions régulières. On fait des entrevues, on revisite des anciens pay-per-view, puis là, cette semaine, là, Kevin, on
Invasion 2001.
On a un gros show Invasion 2001.
Ben, en fait, je veux juste mentionner, mon ordi, il reste 9% de batterie.
OK.
So, quand l'ordi ferme, le review est fini. Fait que c'est parti, faut se dépêcher. Invasion 2001, pour vous mettre en contexte, c'était le 22 juillet 2001. Il y avait 770 000 personnes qui ont acheté le pay-per-view. C'est énorme. Ça aurait pu être mieux, Pat va l'expliquer. Les commentateurs étaient JR et Michael Cole.
Un jeune Michael Cole.
Et, en tout cas, on va parler tantôt. Et c'était au Gun Arena à Cleveland. Et le fait qui est intéressant, la carte a seulement duré 2h40.
Oui. Le Gun Arena, il y avait 17 964 personnes qui avaient là. C'était ironiquement le même endroit où il y avait eu le Raw du 26 mars. Puis ça, le Raw du 26 mars, Kev, c'était le Raw où c'était la même journée que le dernier Nitro. Tu sais, c'était le Raw simultané avec le Nitro. Ouais. Parce que c'est un peu de là que ça vient. Invasion 2001, là, l'invasion, c'était supposé être l'invasion de la WCW. Ça n'a pas vraiment donné ça. Parce que le 23 mars, là, on est en juillet, donc quatre mois avant, le 23 mars, la WWF, à l'époque, achète la WCW. Trois jours plus tard, dernier Nitro, on fait Nitro et Raw simultané, donc à Raw, on présente, tu sais, on voit les affaires à Nitro et vice et versa pour démontrer que bon, la WWF avait acheté la compagnie. Puis à la fin, le gros slobber knocker, comme dirait JR, c'est que c'est Shane McMahon qui a acheté la WCW et non pas Vince. Shane et Vince étaient déjà dans une rivalité parce que WrestleMania, là, c'est une semaine après le 26 mars 2001, là, c'est une semaine après tout ça. Il y avait déjà une rivalité. Shane s'en allait contre Vince dans un street fight à Mania. Donc, ils se sont dit, ben, hey, on va ajouter quelque chose de plus. Shane va acheter la WCW. Ça va ajouter quelque chose à l'angle avec son père. Suite à ça, OK? Puis là, Kev, je sais pas si tu connais tous ces détails-là, mais la WCW, là, devait vraiment avoir une émission à elle. Ça devait être sur TNN où Raw était présenté à l'époque. Ça devait être les samedis soirs de 11h le soir à 1h du matin. Et ils devaient taper ça. Au début, c'était le mercredi. Là, ensuite, ils ont dit, on va faire ça pre-tape, genre le samedi plutôt dans la soirée. Ils sont revenus au mercredi. Et finalement, TNN a réalisé que, ben, il y aurait pas de vedette. Les gros noms de la WCW, les gros noms de la WCW étaient pas pour être là. Puis là, ils ont backé down. Ils ont dit non, finalement, ça nous intéresse pas. Et là, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, ben, OK, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener des lutteurs de la WCW, ceux qui sont sous contrat, parce que quand ils ont acheté la WCW, il y avait des lutteurs qui venaient avec ce qu'ils avaient acheté, des lutteurs qui étaient sous contrat. C'était tous des gars qui gagnaient pas plus de 300 000 de garantie. Ouais. Les gros noms, là, les top dogs, là, les Sting, Goldberg,
Hogan,
tous ces gars-là avaient des contrats soit trop chers ou des contrats directement avec Time Warner et non pas avec la WCW. Et il y en a qui gagnaient, il y en a qui restaient, Goldberg, je pense, entre autres, il restait 2 ans sur son contrat à quelques millions par année. Et là, la WWF a pris la décision de ne pas racheter ces contrats-là. C'est pas juste que ces gars-là voulaient pas venir, il y en a là-dedans qui voulaient venir. Mais la WWF voulait pas, Vince voulait pas dépenser de l'argent pour aller chercher ces gars-là parce qu'ils disaient que c'était pas un bon investissement. Faut se rappeler, on est à l'été 2001, là, avril, mai, juin 2001, la XFL, là, ça vient de se passer, là. Ils viennent de perdre 68 millions, Vince. Mais il y avait quand même de l'argent, là. Ils venaient de sortir de ces 2 années les plus profitables. Il y en avait de l'argent, mais ils voyaient pas le retour sur l'investissement. Ça a été une mauvaise décision de sa part. On le verra tantôt. Et finalement, le 2 juillet, rappelle-toi, ils décident de donner un main event à la WCW, à Raw. Ils décident de faire Booker T contre Buff Bagwell.
Ouais.
C'était à Tacoma, dans l'État du Washington, où la WCW s'était jamais produite. Fait qu'imagine la réaction que ces gars-là ont eue. Vince était pas content. Et là, il s'est dit, OK, ça marche pas, là. Faut faire quelque chose. Et là, tu sais quoi l'idée qu'il y a eu? Vince, il avait eu, il s'était fait pogner les culottes à terre avec Tori Wilson par sa femme Linda. Et là, l'histoire qu'il y a eu, c'est Vince, l'idée, là, c'était que Vince et Linda étaient pour se séparer. Chacun était pour se séparer la compagnie. Et il aurait gardé SmackDown les jeudis et Nitro aurait pris la place les lundis. C'était ça l'idée. Ouais. Raw, là, devait plus exister. Ça devait être Nitro. Mais là, une fois qu'il est arrivé l'affaire du 2 juillet avec le mauvais main event, puis ça, c'était de leur faute, le Buff Bagwell, c'était pas le bon gars à mettre là-dedans. Ben, finalement, ils ont jeté l'idée. Et là, ils ont dit, OK, là, il nous faut quelque chose pour l'angle d'invasion. Et là, ils ont été chercher la ECW. Ils sont entendus pour avoir les droits sur la ECW. Paul Heyman est arrivé. Là, c'était finalement acheté par Stephanie McMahon. Parce que Stephanie faisait rien. Triple H s'était déchiré le quad au mois de mai. Alors, rendu au mois de juillet, ça faisait 2 mois qu'on n'avait pas vu Steph. Alors, c'était elle qui avait acheté la ECW, Shane à la WCW. Et là, ben, il y avait déjà une grosse crise familiale depuis WrestleMania 16. Et là, ben, c'est là qu'on arrive avec Invasion. Invasion qui, au départ, devait être Fully Loaded. Et là, ça a changé de nom pour Invasion qu'on a décidé de faire cet angle-là. Et c'est là qu'on est. C'est là qu'on est le 22 ouais. juillet. Ça, c'est le background. Un angle d'invasion qui aurait tellement été plus hot. Puis ça, je vais en revenir à la fin. Pis... Mais c'est là qu'on est, 22 juillet, Invasion. W, c'est l'alliance qu'on appelait ouais, la WCW et ECW contre la WWF. Puis ça commence même avant le pay-per-view. Ça commence à Sunday Night Heat.
Ouais, oui. Chavo Guerrero qui bat Escarlito Hardy, 6 minutes 43.
Ouais. 1-0 Alliance.
Puis, ben, je pense, ils l'ont-tu compté? Ils comptaient pas.
Ils l'ont compté. Oui, ils l'ont compté. Ouais. OK.
Puis, juste mentionner.
Deux étoiles et quart selon David.
Non, c'était pas un mauvais match. Là. C'est un match de Sunday Night Heat comme il y a les matchs de Sunday Night Heat tout le temps. Ouais. Promo de Lance Storm et Mark Awesome. Ils ont été interrompus par Edge et Christian qui se promènent avec leur Coupe Stanley. Très, très nice. Mark Awesome, là.
Mike Awesome.
J'ai écrit Mark?
Ben, je sais pas, t'as dit Mark, je sais pas ce que t'as écrit, là.
Mais c'est pas Mark?
Nom. C'est Mike.
Mais à WWE, c'était pas Mark?
C'était Mike.
OK, whatever, là. Mais lui...
Toi, c'est un prénom qui commence par M, qui a 4 lettres.
M'en fous.
Come on!
Ben, nous, on va pas perdre notre temps sur Mike Awesome, là.
Mais qu'est-ce que tu voulais dire?
Ben, je trouvais qu'il avait l'air out of shape.
Ah, ouais. Lance Storm, par contre, tu sais, il a commencé avec son If I Could Be Serious
for a Minute. Moi, je pense que Lance Storm, s'il avait juste un petit peu plus de charisme, il serait méga star.
Lance Storm, c'est lui qui devait affronter Booker T, le main event à Sakura.
Ça aurait été différent.
Ouais. Et, mais finalement, ils ont été vers Buff Bagwell.
À quel point Storm, il est bon au micro, s'il avait juste été plus de charisme, ça aurait été mieux. Mega botch de Christian au début du match, ça a mal parti.
Storm et Christian, ils pensent pas de se tuer dans les premiers moves qu'ils font.
Du pay-per-view, là.
Ouais. Storm fait un saut à l'extérieur, il tombe tellement sur la tête. Et là, Edge se met sur les, à quatre pattes. Et le dos, il était glissant, j'imagine, à cause de la soirée. Ouais. Christian, il slip sur le dos, il se pogne les pieds d'un câble pour vrai, là, je fais comme, oh!
C'est mal parti.
Oui.
À quel point, non, excuse-moi, ça, je l'ai déjà dit. Le heat était sur Christian tout le match. Tag à Edge, tu pouvais te rendre compte déjà en 2001 que Edge, c'était la star des deux.
La foule était vraiment dans les near falls.
Ah, vraiment, vraiment. Fin. Puis Christian fait gagner son équipe avec l'aide du Spear sur Awesome.
Ben, en fait, c'est ça. C'est que Edge a Awesome sur les épaules. Ouais. Awesome a Edge sur les épaules. Ouais. C'est Christian qui utilise le Spear au lieu de Edge. Un petit peu de confusion juste avant ça, mais le finish a bien sorti.
3 sur 5 pour moi.
2 étoiles et demie, selon Dave.
Ah, on va pouvoir comparer nos étoiles.
Oui, 1-1.
Puis égalité. 10 minutes le match. Moi, ce que j'ai aimé sur la carte, c'est qu'il y a des matchs qui devaient avoir en masse de temps, qui ont eu en masse de temps.
Moi, ce que j'ai pas aimé de la carte, c'est qu'il n'y a pas eu grand bon match.
Ben moi, je trouvais que c'était un bon match. Moi, j'ai mis 3 étoiles.
C'était correct.
Bon, ce match-là, très underrated. Let me do my shit, parce que ça, c'est mon match, OK?
What?
OK, senior referee Earl Hebner face à senior referee Nick Patrick, qui est le heel. L'arbitre spécial, c'est Mick Foley. Bon, je vous raconte l'histoire. Donc, Nick Patrick, c'est un heel. Là, on voyait Nick Patrick faire des fast counts.
Il avait déjà été heel à WCW.
Ouais, ouais, mais là, il était heel. Ouais. Là, il faisait des fast counts. Il était partial dans ses choix. C'était un arbitre WCW. Earl Hebner est plus babyface que la, la plupart des babyface à WWE, OK? Earl Hebner était fou. OK, après ça, il y a un gros grudge match entre les deux. Les deux chicanent. Là,
Ils ont tous leur boy referee avec eux autres.
C'est une gang de refs.
Jim Cordera, c'est dans le coin à Earl Hebner. Ouais. Tim White. Teddy Long était là.
OK, so, le match, il durait 2 minutes 50, OK? Je vais vous dire ce que j'ai pensé du match. Mis à part la lutte, OK? Que la lutte était meilleure que Dana Brooke, là. OK?
Je suis pas sûr.
Je trouve que Nick Patrick, yo, ce gars-là, c'est un excellent heel.
Tu sais qui son père, Nick Patrick?
C'est qui?
Jody Hamilton, il se faisait appeler The Assassin dans les années 60. C'était genre une des grosses stars dans certains territoires aux États-Unis. Le gars, là, il a grandi dans le business, là.
Ouais, OK.
Ben non, mais c'est pour te dire que c'est pas surprenant qu'il sache travailler dans un ring, tu comprends?
Puis j'ai aimé que les arbitres donnent des taloches. Je trouvais que c'était un bon match. Puis j'ai même mis ma main à Tim Burke et Dana Brooke. Puis ça n'a pas été long. Ça nous a donné 2 minutes et demie.
Même pas 3 minutes.
Même pas 3 minutes. Ça n'a pas fait chier. Il y a eu les entrées, les sorties. Et on a eu Mr. Sacco. Moi, j'ai mis 3 sur 5 pour ça.
Dave Meltzer, il a juste décidé de ne pas donner de rating parce que ça ne valait pas la peine. 2-1 WWF.
Hey,
attends une minute. Avant le prochain match, il y a eu deux affaires.
Les promos, je les ai pas mis. Parce qu'il y a certaines promos.
Non, mais c'était pas une promo. Okay. Mais un oui, mais pas l'autre. Il y a une publicité pour Tough Enough.
Ouais, ouais.
Tu as remarqué les gars qu'il y avait là?
Ouais, ben vas-y.
Les jeunes, il y avait deux, en fait, j'ai marqué Chris Nowinski.
Ouais.
Josh Matthews. Hey, il y avait
un petit bébé. Un petit bébé
chaud. L'autre, c'était la promo avec Deborah, qui est la femme de Steve Austin, qui était la femme à l'époque, et Sarah. On en a parlé dans notre émission régulière des Antipodes, qui était la femme de l'Undertaker. Il avait eu la mauvaise idée de tatouer le nom Sarah dans le cou, qui est à peu près la pire idée de tatou avant Cody Rhodes. Et Sarah, dans la promo, appelle Undertaker, Mark. Elle dit, ah ouais, moi puis Mark.
Ouais, mais non, OK, je viens de comprendre ton point des Antipodes, OK? Parce que c'est pas pareil. Il était pas Undertaker. Il était badass, American Badass.
J'ai pas besoin de savoir qu'American Badass s'appelle Mark.
Non, American Badass, il s'appelle Mark, il se promène en bicycle. Undertaker, il apparaît quand les lumières se ferment. Laisse-moi tranquille, là. O'Hare et Palumbo face au APA.
Hey, c'est les deux champions de chacun des fédérations WCW. Sean O'Hare puis Chuck Palumbo. Je les aimais, moi, ces gars-là.
Ouais, mais il y avait autant de charisme que Iguane,
mais je m'aperçois que 20 ans plus tard, je connais mieux ma lutte parce que autant que je pouvais les aimer en 2001, là, je m'aperçois que il était pas prêt encore.
Shit,
il était pas prêt encore.
On oublie trop souvent à quel point Farouk, comme, il est vraiment bon. Là.
C'était le meilleur des quatre. JBL, même à ce moment-là, là, sa lutte était très stiff, très bloc par bloc. Ouais.
Puis, tu vois, moi, j'ai mis la note. Tu vois que Palumbo et O'Hare, il y avait du potentiel.
Oui,
moi, je pense qu'ils ont juste stagné à Invasion 2001.
La WWF trouvait que la plupart des gars de WCW et de CW savaient pas lutter. Il fallait qu'ils les réapprennent à lutter.
Ouais, mais ils font ça encore aujourd'hui.
O'Hare et Palumbo ont comme passé un peu là-dedans. Bon, Chuck a eu quand même une plus longue longévité avec Billy Gunn, Billy and Chuck puis tout ça. Mais le match, là, tu voyais, les gars travaillaient stiff.
C'est du rough and tough wrestling.
Absolument. Une étoile pour Dave Meltzer.
Moi, j'en ai mis 3.
Ah, boy, que t'es généreux,
mon gars. Mais tu sais pourquoi j'ai mis 3 étoiles? Parce que je m'attendais pas à ce que O'Hare et puis Palumbo me donnent un match.
T'es généreux. 3-1 WWF à ce moment-là.
Par la suite, Billy Kidman face à X-Pac.
Ouais.
Cruiserweight Champion face à Light Heavyweight Champion.
Absolument.
7 minutes 12, le match. La chanson d'entrée d'X-Pac, là, c'est le début du X-Pac Heat. Là.
Oh, il se
c'est
fait
la raison
huiler,
du X-Pac Heat.
Absolument.
Ça, là, c'est la raison pourquoi le X-Pac Heat existe. Cette chanson-là ne devrait jamais exister. Mais moi, j'ai toujours aimé Billy Kidman, même s'il avait le même problème que Lance Storm. Le côté charisme.
Un peu. Ça a été le premier gars de la WCW sur le show à se faire applaudir, Billy Kidman. Ça a été vraiment le premier à se faire applaudir.
Ouais.
Et puis...
Mais parce qu'on connaît plus, puis il est cool, Billy Kidman.
Ouais.
Il est cool, Billy Kidman.
Ouais. Le match était correct.
Ben, un gros low blow devant l'arbitre que l'arbitre n'a jamais collé.
Okay.
Mais victoire de Kidman avec un beau moonsault. 3 sur 5, moi, j'ai mis.
Toi, t'as mis ça aussi bon que O'Hare et Palumbo.
C'était un match différent.
C'était un match, oui, c'était différent, c'était meilleur.
Okay, c'était différent.
Deux étoiles pour du côté de Meltzer. 3-2 WWF.
Avant de parler du match de Raven contre William Regal, interlude musical.
De retour aux Antipodes Extra. Donc, on revisite aujourd'hui Envision 2001.
Mais ils savent, man!
Attends une minute, je vais te parler de quelque chose. Avant d'aller à Raven contre William Regal, puis tu te fâches, Tori Wilson et Stacy Keibler,
hey, cette promo-là, là. Ça, c'était ça, là.
Ma note, pour rester poli, c'était très explicite.
Hey, man, c'était terrible.
C'était de son temps, là.
Oui, mais
on
c'était
s'entend.
Terrible.
Tu vois Tori Wilson qui se remonte les seins.
Souvent, qu'en 2001, là, j'ai fait des choses là-dessus.
Oh, mais Stacy Keibler avec ses jambes et son...
That's dirty!
Avec ses jambes et son popotin. Mais, pour vrai, c'était très suggestif.
Ouais, j'ai vraiment pas... Tu sais, quand tu retournes, là...
Ben, en fait, c'est deux filles qui, tu sais, qui clairement... Parce que l'histoire, ben, on va en parler de l'histoire plus loin. Tantôt. Mais, c'était... Ouais, c'est ça.
Raven face à William Regal, un match.
Le commissaire William Regal, ah, qui était bon. Moi, j'aimais ça quand il rentrait, puis il saluait les gens, là, c'était débile.
Un match super lent.
Ouais.
Une intervention de Taz, Raven Effect, 1, 2, 3, Raven. Le match a duré 6 minutes 34.
Il y a eu des chants de boring.
J'ai mis 2 sur 5 parce que.
Taz a eu un pop à un moment donné quand il est intervenu. Le match, là, dans le fond, là, ils ont ajouté 2 matchs dernière minute. Ce match-là a été annoncé à Heat. Il était même pas sa carte officielle. Et le match suivant aussi a été annoncé dernière minute. Meltzer a donné 1/4 étoile.
Hey, boy.
3-3. On est de retour à égalité. Raven qui a battu William Regal.
Big Show et The One, Billy Gunn.
Et Albert.
Et le champion intercontinental, Albert.
Et Train, qu'on a connu par la suite.
Ou c'est quoi le gars qui dansait avec Brutus Clay, là? Tenzai, Tenson, Tanti.
Tu me rappelles des mauvais souvenirs.
Face à Sean Stasiak. De humoriste.
Ben, en fait, c'était humoriste, mais il faisait un jeu de mots.
Ah oui? Ah, ouais. OK. Puis Chris Kanyon, 4 minutes 23 le match.
T'sais, rappelle-toi, là, c'était dans les années où il y avait General Erection.
Ouais, je sais, mais
c'était des mauvaises idées.
Billy Gunn est à son pic du pre-wellness policy.
Il l'a trouvé bonne.
Billy Gunn est à son pic du pre-wellness policy. Sean Stasiak puis Chris Kanyon.
Big Show est pas en forme.
Big Show est out of shape.
Ouais.
Tu sais pas c'est quoi qui se passe. Pourquoi il rentre sur la toune de Mr. Perfect, Stasiak puis Kanyon?
C'était un match qui a été booké dernière minute. Ou en tout cas, qui a été annoncé
Arc
dernière minute. Et tu sais, la WWF là-dedans là, est censée être babyface.
Ouais.
Et c'est dur parce que là, t'as des gars comme Albert pis Gunn qui sont heel, que t'es censé, comme fan de la WWF, prendre pour... Ouais. Tu sais, Vince McMahon, là, pas longtemps, en avril, il était heel. En juillet, il est babyface à cause d'un angle. Et tu sais, c'était pas organique. Tu sais, t'étais comme obligé...
Non, mais ils ont tout fait vite.
T'étais comme obligé. Kurt Angle, ça a bien marché. Ouais. Son babyface turn a marché. Mais ça a pas été de même pour tout le long.
1 sur 5, excuse.
Un deuxième quart d'étoile. Fait qu'à 2 matchs, on a une demi-étoile. 4-3 Alliance.
Moi, parce que là, faut pas oublier les gens. Moi, je donne pas de quart. Moi, je mets 1. C'est ça. Taz contre Tajiri, 5.45. C'est un match que j'ai été 10.
5.45 étoiles?
5 minutes 43. J'ai mis 3 étoiles sur 5. Je veux dire pourquoi. Taz.
Toi, là, tu mets juste beaucoup trop ça souvent.
Taz est badass as fuck. OK? Taz. Yo. Taz, puis ils ont drop Taz, OK? Moi, je m'attendais tellement à un excellent match entre les deux, puis j'ai été déçu parce que je m'attendais à plus.
Ouais.
Tajiri, il est tellement underrated dans qu'est-ce qu'il a
fait,
là.
Ben oui.
Puis si Tajiri était à son prime aujourd'hui, on parlerait de lui dans les gros gars de New Japan.
Tajiri était à Montréal en 2019.
Ouais, moi, j'étais là au match.
Mike Bailey. Le match, ben, c'était correct, là, sans plus.
3.
Meltzer a donné 1 étoile et 3 quarts. On est de retour à égalité. C'est 4-4.
Ça va aller, Pierre-Houd. Rob Van Dam face à Jeff Hardy, c'était le meilleur match de la carte pour moi.
Tellement.
4 sur 5, j'ai pensé même 5, mais c'était pas assez bon pour un 5, mais 4 sur 5. Excellent match pour un hardcore match.
Ben, c'est ça, Jeff Hardy était le champion hardcore. RVD est devenu le champion, il l'a battu.
Puis de la bonne lutte, des bons tricks, 5-star Frog Splash pour gagner le titre. Hardcore, j'ai ri fort quand j'ai vu ça. Puis j'aime le fait qu'il frappe son 5-star Frog Splash qui vend son 5-star Frostplat.
Il l'a toujours fait, ça.
Puis qui pin. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé de
RVD. Il avait attaqué Matt Hardy dans les vestiaires avant le match pour s'assurer que ce soit vraiment un contre un. À un moment donné, bon, il y a un gros spot de l'échelle. Il y a aussi le Van Daminator avec la chaise sur le stage. Pour vrai, là, c'était un superbe match. Meltzer a donné 4 étoiles, donc la même note que toi. 5-4 Alliance.
Bra and panty match. Oh. Trish et Lita face à Stacy et Tori Wilson, l'arbitre spécial.
Stacy Kibler, Tori Wilson.
C'est Mick Foley et
c'était
règlements.
Le premier, Kev, le premier match par équipe Bra and Panties.
Et là, le but, c'est d'enlever les vêtements à l'autre.
Ben, c'est la première équipe qui se ramasse en brassière et en petite culotte qui perd. C'est la première équipe qui se ramasse ça, perd. Et c'était ça, en fait, qu'ils disaient dans leur promo, Tori et Stacy. Ils disaient, genre, ça serait une honte qu'on nous voit pas en brassière, mais ça veut dire aussi qu'on va perdre le match. C'était à l'époque où la WWE favorisait les looks favoriserait le look que la lutte. Fred semble très intéressé par voir ce match-là.
5 minutes 04, j'ai mis 0 sur 5. J'ai pas besoin de voir ces affaires.
Meltzer a pas noté lui non plus. Ce que je veux noter par contre, il y a eu à un moment donné un super beau move où Trish a comme reversé un move et là s'est ramassé dans une position pour faire un pin, mais en même temps pour une position parfaite pour enlever les culottes de Tori Wilson. J'ai comme trouvé ça au niveau ingénieux. Tori Wilson, là, elle aimait pas ça lutter. Elle l'a dit par après. C'était pas son dada. Elle se voyait pas comme une lutteuse. C'était Tori et Stacy, ça a été deux gros noms dans le monde de la lutte, mais pas à cause de leur lutte, mais parce qu'ils amenaient. Tu sais, comme valet, je les aurais pris n'importe quand. Mais à ce niveau-là, puis le match avait été buildé parce que, de façon un peu bizarre, t'avais Lita qui sortait avec Matt Hardy, puis Trish, à un moment donné, a embrassé Lita, Matt. Lita était pas contente, fait qu'elle a embrassé Jeff. Fait que là, c'était comme si t'avais les deux blondes des Hardy, puis là, t'avais Tori puis Stacy qui arrivaient de la WCW qui cruisaient les Hardy. Ouais. Tu sais, c'était du gros storyline de feu d'amour, de feu de l'amour, de feuilleton l'après-midi.
Shit.
Tori Wilson, là, elle a quand même sorti avec A-Rod. Stacy Tabler sortait avec George Clooney. C'est devenu quand même des gros stars dans ce monde-là. Pis c'est pas pour rien qu'ils ont été capables de fraterniser avec ça. Hey, Kev, 5 à 5. 5 à 5, ça tombe bien. Il reste un match.
Inaugural, hein? Brawl, Jericho, Kurt Angle, Austin, The Undertaker et Kane. Pas Mike Calloway, faut The Undertaker face à Dudley's, Rhino, Booker T et DDP.
C'était le vieux Austin. Là. C'était le Austin Vince McMahon, parce que quand Austin avait tourné heel à WrestleMania 17 contre The Rock, dans un des meilleurs WrestleMania de tous les temps, Austin, après ça, il donnait des hugs. Il chantait des chansons à la guitare à Vince. Et là, c'était plutôt le Austin que Vince voulait voir. Alors, il priait Austin de revenir comme on l'a connu dans l'Attitude Era. Kurt Angle était babyface à ce moment-là. Donc, on venait de tourner Kurt Angle. Ça commençait à porter fruit. La foule était du côté d'Angle. Mais le match commence. Et là, la musique d'Austin frappe l'aréna. Et là, oublie ça. Ça a été le pop de la soirée.
Je vais te donner la toune des Brothers of Destruction était parfaite. C'est le seul mashup de toune que je veux prendre dans ma vie. Les gars qui étaient au...
J'aimais ça parce qu'il alternait.
Ouais.
Il alternait les entrées.
C'est la seule affaire que j'aime. Les gars... OK, tu parlais de WCW. Puis, c'est une bonne idée.
Il alternait. Il y avait un membre de Team Alliance, un membre de Team WWE.
Les gars étaient over, étaient badass. La seule fois que... je viens de le dire. Paul Heyman, il est tout le temps bon. En 2001, il était encore bon.
Ben oui,
Shane, c'est un petit bébé. Kurt Angle, c'était le plus over à part Austin. C'est un gros clusterfuck. 5 contre 5, c'est pas une bonne idée. S'il n'y a pas d'élimination, c'est pas une bonne idée. Il y avait beaucoup de stars, beaucoup de tombées, mais il n'y avait rien qui se passait. Trop de stars et un tombé, rien qui se passait.
Il y a eu à un moment donné un ref bomb. Shane a attaqué Vince. Qu'est-ce qui se passe?
Ok, là, j'ai le nez qui coule. Fred, il est parti me chercher du papier. Je pense qu'il a amené le rouleau au complet. Lui, il a pas compris le corona, là. Je te laisse finir pendant que je me mouche, Pat.
Il y a eu un ref bomb. Shane a attaqué Vince avec la belt. Il l'a frappé avec la belt. Kurt Angle l'a sorti. Il a fait le ménage. Il a fait le angle lock sur Booker T, qui a tapé, mais il y avait pas d'arbitre, évidemment. Et là, t'as Steve Austin qui ramène l'arbitre. Et là, tu penses que Steve Austin vient sauver la journée. Ben non, toi, il attaque son partenaire Kurt Angle. Un autre heel turn de Steve Austin. Il en avait fait un au mois d'avril. Il est revenu babyface pour l'invasion. On le remet heel. Pour vrai, là, ça, là, c'était pas la meilleure des idées, mais ce qu'on voulait faire, c'est Angle. Puis là, ben, finalement, Austin fait un stunner à Kurt Angle. Puis il met Booker T par-dessus. Puis le match se termine. Et il y a un beer bat avec Stephanie, Shane, Paul Heyman. Et là, t'as JR qui est écœurant. Ouais. Puis qui dit « Why, Austin? Why, damn it? » Et pour vrai, tu sais, c'est parce que Steve Austin avait lutté à ECW, il venait de la WCW. Oh ouais. Mais, tu sais, c'est parce que là, à un moment donné, c'est plus une alliance, c'est plus la WCW, ouais, c'est plus la ECW quand t'as des gars comme Kurt Angle puis Steve Austin. Ben, pas Kurt Angle, mais Steve Austin qui en fait partie. Tu sais, quand tu regardes ça, là, les Dudleys là, luttaient déjà à WWF, mais ils ont utilisé leur historique ECW. Ouais. La même chose avec Rhino. Les vrais seuls gars WCW, là, de cette équipe-là, c'était DDP puis Booker T. Puis on vendait ça comme une invasion. C'était un peu un letdown.
Moi, j'ai mis 3 sur 5, puis le match était trop long, 29-03. Ils ont réussi à bien faire ce match-là à Survivor Series, par exemple. À Survivor Series,
oui, mais rendu là, c'était la fin, tu sais.
Je sais, mais tu comprends ce que je veux dire? Comme ils ont mal parti ça, mais ils l'ont bien fini-ish.
Il reste quelques minutes, là, avant
mon quiz.
Ah oui, mais avant ton quiz, juste qu'on parle un petit peu de l'aftermatch qui s'est passé après Invasion, parce que Invasion là, ça devait être la grosse affaire. Il y a eu 760 000 achats de pay-per-view, Kev. C'est le plus gros pay-per-view à part les WrestleMania. Puis pourtant, là, hey, regarde, là, on vous nomme les noms de W. Tu sais, Nick Patrick a lutté, Sean O'Hare, Chuck Palumbo. C'était pas les grosses stars, là. Et malgré ça, ça a été. Le monde voulait voir ça, voulait voir une vraie invasion. La WWF pensait que de signer les gros contrats, ça leur permettrait pas de rentabiliser. Juste en pay-per-view buys, juste les achats pay-per-view qu'ils auraient fait de plus avec les grosses vedettes, il aurait sûrement payé une grosse partie, si c'est pas la totalité de ces salaires-là. Trois mois après l'an d'invasion, Raw, les ratings ont droppé de 30%, Kev. Il y a eu un match en septembre 2001, Austin contre Rock, le champion WWF contre le champion WCW. Personne ne s'en souvient. Puis c'était la première fois que les deux champions, mais c'était le Rock qui était champion de WCW.
Ça
faisait pas de sens. À Survivor Series, la WWF a battu l'Alliance. Et s'ils gagnaient, ben c'était winner takes all. Donc la WWF gagnait la rivalité. Le lendemain, Ric Flair arrivait. Shane et Stephanie avaient, dans les gimmicks, dans les histoires, vendu leur part à Ric Flair. Et là, ben on commençait la rivalité Flair-McMahon avec le draft, le premier draft qui a eu lieu quelques mois après. Pour vrai, là, imagine What If, Kev. What If Austin, Angle, Undertaker, The Rock puis Triple H d'un bord. T'as de l'autre bord Goldberg, Sting, Booker T, Flair, Scott Steiner. Puis à travers ça, t'as la NWO qui intervient. Imagine comment les gens auraient capoté. Puis comment les gens avaient comme, wow, on en veut plus, on en veut d'autres. Puis là-dessus, t'as pas vendu un match en simple. T'as pas fait Austin puis Goldberg encore, tu comprends? Fait que t'as plein de possibilités. Ils voulaient pas dépenser. Triple H était blessé. Le Rock était à Hollywood. Un paquet de bonnes et surtout mauvaises raisons. Comme. Mais Invasion, pour vrai, ça aurait pu être beaucoup plus un des angles les plus décevants de l'histoire de la WWF. Puis ce pay-per-view-là m'a pas impressionné.
Comme, ben moi non plus, mais en tout cas. Comme à chaque extra,
oui,
il y a le quiz, et là on va le faire en une minute. Fait que Pat, il va falloir que tu réfléchis ta vie.
On a du temps, on a encore 5 minutes. Okay, mais en tout comme cas, toi.
On va se dépêcher à le faire. Chanson numéro 1. Il faudrait un thème pour mon quiz des extra.
Oh, wow!
Fred est tout le temps prêt!
Wow, on dirait Bob Barker à The Price is Right.
OK, chanson numéro 1 dans les palmarès au Billboard.
Chanson numéro 1 en 2001.
Ouais.
Hey boy, Eminem?
No, You Remind Me of a Girl.
Ben, Eminem, c'est pas une chanson.
Non, mais c'est Usher.
Usher? Ouais. Oh,
you Remind Me.
Oh, ouais. C'était bon, ça.
Oui, c'était bon.
C'est un gars d'époque.
Moi, j'ai fait du sexe là-dessus.
Oh, wow. Film... Moi, j'ai vraiment dansé avec des filles dans des clubs là-dessus. Toi, tu pouvais pas rentrer dans ça. T'avais quel âge en 2001, Kev?
Ben, je suis né en 92, donc j'avais...
T'avais 9 ans?
Mais non, j'avais...
T'avais... Ben,
non,
ouais.
J'avais 9 ans.
Ouais. That's dirty!
Hey, j'en avais 25, 24.
J'ai pas fait du sexe à 9 ans, guys. J'en ai fait plus tard. Film numéro 1 dans les box-office.
Film numéro 1?
En 2001.
En 2001, j'ai aucune idée.
Jurassic Park 3.
Oh,
finale wow. De Coupe Stanley en 2001.
Oh, shit. Attends, ça, je devrais savoir. C'était pas Colorado?
Ouais, compte.
Colorado qui bat... c'est Raymond Bourque, c'est la Coupe à Raymond Bourque.
Exactement. Qui bat New Jersey.
Qui bat New Jersey, c'est ça, ouais.
Bon, celle-là est un peu tough, là. Je l'ai mis, mais j'aurais pas dû la mettre. 22 juillet 2001, c'est qui le lead-off frappeur?
C'était 22 juillet 2001, c'était le pay-per-view.
Oui, c'est ça.
OK.
C'est qui le lead-off frappeur des Expos?
Le leader, qu'est-ce que tu veux dire?
Le premier frappeur des Expos.
En 2001?
Ouais.
Oh, merde. Brad Fulmer?
Ah, t'es proche? Non, c'est Peter Bergeron.
Hey, quand tu t'appelles Peter Bergeron?
OK, le 31 juillet,
oui. Okay,
les Expos échangent Milton Bradley et Huguette Urbina à deux équipes différentes. Essaie d'en avoir une des deux. Donc, Milton Bradley et Huguette Urbina se font échanger.
Les Dodgers?
Cleveland et les Red Sox, respectivement.
Ah, ouais.
Oui, je sais, moi aussi, j'étais surpris.
OK.
Et il en reste deux. Qui est le pilote qui a remporté le 500 000 le Michigan International Speedway?
Ben, on s'en fout.
C'est un Québécois.
Ah, c'est un Québécois? En 2001?
Ouais, c'est la première fois qu'il a remporté une grosse course de même.
Ben, c'est Carpentier ou Taliani.
Ego, Carpentier. Et finalement, qui a gagné American Idol 2001?
Ah, oh, c'est une fille.
Ouais, vas-y.
Oui, c'est la fille. J'adore ses chansons en plus.
Because of you.
Oui, c'est ça. Donne-moi ses initiales.
Cossé?
C'est Kelly Clarkson.
Hey, go, yes. Baby!
Yes.
T'as mieux fait que la première fois.
Hey, attends une minute. Juste avant de finir, on a une minute ou deux, là. Une anecdote personnelle par rapport à Invasion 2001.
Vas-y.
Invasion 2001, c'est un peu une raison lointaine de pourquoi je suis assis ici avec toi.
Pourquoi?
Oui. J'allais à l'université en 97, Survivor Series. J'arrive le lendemain de Survivor Series, le Montreal Screwjob, avec mon chandail de DX. Il y a un des gars dans ma classe qui a son chandail de Steve Austin, 316. Évidemment, on s'assoit à un côté de l'autre puis on se parle. Tu sais, c'est deux femmes de lutte.
Drôle.
Et ce gars-là, en 99, ouvre un site web sur la lutte. Au Québec, ici, et je décide d'écrire des chroniques. Et je faisais des chroniques, genre des ratings de statistiques avec les victoires, tout ça, ECW, WWF, WCW, les pay-per-views, tout ça. Mais c'était long, il y avait bien des promotions, puis j'avais une esprit de collection Internet de schnout. Pour vrai, là, j'avais pas Vidéotron dans Schlaga, là. Vidéotron n'était pas rentré. C'était difficile, fait que j'ai lâché. En 2001, il fait une refonte de son site à l'été 2001. Il appelle ça attitudeqc.com. Et je lui propose de revenir avec ma chronique parce que là, il restait juste la WWF à cause de l'invasion qui a été mauvaise.
Ils n'ont pas
gardé un show séparé de la WCW.
Ouais.
Ils ont acheté la ECW qui venait de faire faillite. Donc, pour vrai, il restait juste un show. C'était plus simple pour moi. Vidéotron était finalement arrivé. Et lui m'a initié à la lutte au Québec.
Ouais.
14 septembre 2001, la première fois que j'ai été impliqué dans un show de lutte au Québec,
ouais.
Je sonnais la cloche, les 10 coups parce que il est arrivé le 11 septembre,
ouais.
Les attentats du World Trade Center. Donc, ça a été mon premier rôle dans la lutte au Québec, ça a été de sonner 10 coups. C'était à la Fédération de lutte québécoise, la FLQ. Et, de là, ben, de fil en aiguille, j'ai été impliqué, j'ai fait les almanachs, j'ai connu des anciens lutteurs au Québec, j'ai fait les livres et tu m'as connu et je suis là aujourd'hui. Donc, il y a une partie du mauvais angle d'Invasion 2001,
ouais.
Qui est peut-être une raison pourquoi je suis ici aujourd'hui. Hey!
Pat, dis bye aux gens. Mais on a
ben, je dis bye aux gens. La prochaine fois, vous nous avez donné des listes de pay-per-view, de shows à regarder.
T'as-tu un show qu'il faut que je regarde, Pat?
Ben, non, j'en ai pas un, là. On va s'en choisir un. Peut-être que ça va être une entrevue aussi le prochain coup, on ne sait pas.
Annonçons-le au prochain podcast.
Au prochain podcast, on vous arrive avec le prochain Nextra. Allez voir Invasion 2001 si vous ne l'avez pas déjà vu. Commentez. Dites-nous ce que vous en avez pensé.
Je veux juste dire merci, Brian Deschaines, pour ta suggestion. Here we go!
Oh, yes!
Here we go!
Mesdames et messieurs, merci d'avoir été à l'écoute. Et on se dit à un prochain Antipode Extra. C'est un rendez-vous!